Du 2 juillet au 2 septembre, parcourez les festivals et vivez les grands concerts en direct. Le Festival de Radio France et Montpellier-Languedoc-Roussillon, le Festival de Piano de la Roque d'Anthéron, Jazz in Marcillac, sans oublier les Corégies d'Orange et Aix-en-Provence. Toutes les infos sur francemusique.fr. France Musique, une radio du groupe Radio France.
France Inter.
La différence.
Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, c'est maintenant sur Inter.
Et voilà, c'était le lâcher de ballon organisé par des parents d'élèves des écoles Bugeaud, Guérin, Lyon, Algésiras, Pilier Rouge de Brest, ainsi que le collectif Casse-Papier en faveur des demandeurs d'asile dont les enfants étaient scolarisés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans ces écoles. Nous déplorons fortement les conditions brutales de leur expulsion de Brest dans un camping du Sud Finistère, avec un accès difficile à la nourriture et des conditions d'hébergement insatisfaisantes compte tenu du mauvais temps, et ce, à seulement 3 semaines de la fin des classes, leur faisant ainsi manquer promenade scolaire, spectacle de fin d'année et surtout la traditionnelle kermesse avec leurs copains d'école. Nous sommes conscients de la complexité du sujet, mais restons vigilants quant au traitement humain qu'il sera fait à ces personnes déjà en souffrance.
Publicitaire, à quoi ça sert ? À exercer sa créativité au service de mensonges et de slogans qui permettront de nous refourguer les merdes que produit la société industrielle. Autrement dit, faire tourner la croissance en rond. Autant dire non seulement un travail qui n'est d'aucune utilité sociale, mais qui au contraire est d'une extrême nuisance sociale. Alors les salariés de chez Publicis, désolé, mais moi je me sens pas solidaire. Ils contribuent au pourrissement de nos imaginaires, de nos vies, de la nature, de nos désirs. Tout ça bien sûr avec notre complicité, tant nous sommes bien domestiqués. Nombre d'entre nous encouragés par les syndicats et les partis de gauche, et nos petites personnes en plus, n'ayant comme idéal de bonheur que le pouvoir d'achat. La boucle est bouclée, et Momo rigole, il a le bon créneau. Quand est-ce qu'on arrête ? David, objecteur de croissance et réfractaire au travail.
À cette admiratrice de ce grand homme, Monsieur Lévy, je lui dédie ces quelques vers. Qui a construit Thèbes aux 7 portes ? Dans les livres, on donne les noms des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre ? Babylone, plusieurs fois détruite, qui tant de fois l'a reconstruite ? Et puis un peu plus loin de ce poème, César vainquit les Gaulois. N'avait-il pas à ses côtés au moins un cuisinier ? À chaque page, une victoire. Qui cuisinait les festins ? Tous les 10 ans, un grand homme. Les frais, qui les payait ? Autant de récits, autant de questions. C'était « Question que pose un ouvrier qui lit » de Bertolt Brecht.
Salut à tous. Daniel, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière semaine. Pour ce qui concerne les repères du Sud-Est à Tourette, on fera le repère vendredi soir. On est un repère où habituellement on n'a pas d'intervenant. Mais là, il y a un AMG qui est quelqu'un qui a un parcours un peu particulier et qui vient de sortir un bouquin sur l'histoire de son hépatite C. Et donc il viendra nous en parler. C'est un truc plein d'humour. C'est super, c'est génial. Daniel, de toute façon, prépare-toi une belle semaine pour terminer. Survivra, portez-vous bien. Et puis là, on part en Libye apparemment.
Et oui, on part en Libye. Merci à tous et à toutes pour ces messages. On part en Libye, la Libye, l'espoir et le chaos. Aujourd'hui, le monde entier, et spécialement la Libye, regarde du côté de l'Égypte, où, vous le savez, l'islamiste Mohamed Morsi vient d'être élu ce dimanche 24 juin. Et vous le savez aussi sans doute, dans quelques jours, le 7 juillet, la Libye, à son tour, va voter l'élection de l'Assemblée constituante. Un grand moment, évidemment, dans la vie de ce petit pays par le nombre d'habitants et très grand par la taille et puis par la place qu'il a pris dans l'histoire. Ces temps derniers, à quoi ressembleront ces élections? Vous vous souvenez qu'on était en Tunisie au moment des élections. Il se pourrait bien que ça ne se passe pas du tout de la même façon. Il se pourrait bien que ce printemps arabe se décline de façon tout à fait différente dans chacun des pays concernés et que, bien, après le printemps arabe médiatique, l'engouement soit quelque peu retombées. C'est des moments où, évidemment, tout est simple. Il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et nous qui sommes toujours, évidemment, du côté des opprimés à leur côté. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est dans cet après-là que nous partons aujourd'hui, sans illusion de vous rapporter des idées fortes et claires. Vous allez voir, c'est une situation compliquée surtout pour nous, avec notre culture, nos grilles de lecture, notre façon de voir le monde. Alors on va y aller doucement, et peut-être mettrons-nous en lumière quelques-uns des défis qui attendent la Libye au lendemain de ces élections du 7 juillet prochain. C'est notre thème du jour, la Libye, l'espoir et le chaos. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale. De là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel. Laissé sur Bray en colère, le repreneur promis pour la société Colwell a honteusement laissé tomber les salariés. Une première lettre leur disant qu'ils pouvaient faire acte de candidature pour la reprise de l'entreprise. 15 jours après, on jette l'éponge et les salariés avec. C'est dégueulasse, Daniel. Merci de passer ce message. Bon courage, au revoir.
Salut les AMG. La réunion du repère de Briouze dans l'Orne se tiendra le mercredi 27 juin à 18h au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit à Briouze. Donc le 27 juin, mercredi, au Brazza à Briouze. Salut.
Là, on est à Tripoli, on est dans les ruines du QG de Kadhafi.
Il faut savoir qu'il n'y avait pas du bénévolat dans l'action internationale, donc il y avait des intérêts.
Et est-ce que vous connaissez Bernard-Henri Lévy, un autre français?
Bernard-Henri
Lévy.
Henri Lévy.
C'est un philosophe français.
Non, problème.
Je ne connais pas, non.
Happy shooting.
On entend loin des petits tirs de Kalash. Ça s'appelle happy shooting, les tirs joyeux. C'est vendredi soir, on fait la fête en tirant.
Vous regrettez Kadhafi?
Oui, bien sûr.
Oui, je suis désolé. Vous voyez qu'est-ce qui se passe en Libye maintenant?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil et Patrick Mzadeh. Libye, l'espoir, le chaos. Là, on vient d'arriver à l'entrée de Misrata. Misrata, c'est un nom, un mot qu'on a entendu pendant des jours et des jours l'année dernière. Et ici, ça a été un haut lieu d'affrontement et de bagarre. Et donc, maintenant, quelques mois plus tard, on arrive dans cette ville avec des traces, des batailles, des bagarres, des maisons brûlées, effondrées, toutes, absolument toutes, percées de trous, d'effondrements, de gravats. Et là, sur le trottoir, on a fait un musée avec les trophées, les symboles de cette révolution, de ce que les gens ici appellent la révolution. Pour entrer dans votre musée, on s'essuie les pieds sur un tapis.
Sur la photo de Kadhafi. Voilà.
Sur le visage de Kadhafi. On s'essuie les pieds.
Paillasson.
C'est le paillasson. Kadhafi, paillasson.
Et on rentre dans une petite salle qui était effectivement un supermarché avant.
Et là, sur les murs, les photos des martyrs, des visages de tous les martyrs, des photos épouvantables d'enfants blessés.
Et on entend une bande-son, c'est quoi la bande-son?
Un tournage de tout ce qui a été filmé par les téléphones portables, par les amateurs, donc les caméras amateurs.
Alors dans ce musée, ce qu'on voit en boucle toute la journée, c'est les images de l'exécution de Kadhafi, de son lynchage. Voilà la gueule de Kadhafi. On sent les coups, les hurlements. Allahu Akbar, la moitié des visages en sang. Il est frappé de tous les côtés. Et c'est la mise à mort. Des chiens se déchirent. Des bouts de viande en hurlant que Dieu est grand. Combien de millions sur cette planète ont vu cette mise à mort? Combien ont vu, entendu et d'une certaine façon assisté au lynchage de Kadhafi le 20 octobre 2011? Combien ont vu là une victoire sur l'ignoble tyran, le triomphe du bien sur le mal? Une victoire payée par des milliers de morts. Combien? 20 000, 30 000, 50 000. On ne sait pas encore. Des dizaines de milliers de blessés. Ici, on ne dit pas des morts, on dit des martyrs. Fallait-il vraiment tout ça? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement? Est-ce qu'on peut poser cette question? Est-ce qu'on ne nous a pas poussés à la guerre? Certains la posent, cette question. En Libye, ils l'ont posée. Entre les dents, c'est vrai, mais on la pose. Il y a, bien sûr, les vainqueurs, auréolés de blessures, auréolés de morts, les gardiens de la révolution, dans leur milice, leur jalouse milice, leur katiba, jaloux de garder à la révolution sa force. Et il y a aussi les vaincus, les fidèles à Kadhafi, les loyalistes de Sirte ou de Beni Walid, qui ne regardent pas le lynchage de Kadhafi de la même façon et qui ne rendent pas les armes non plus, comme nous l'avons vu au sud de Tripoli. Affrontement entre deux tribus qui ont fait plus d'une centaine de morts la semaine dernière. Ce qui est bien avec la guerre, c'est que c'est simple. Il y a les bons d'un côté, il y a les méchants de l'autre. C'est un peu comme Allemagne-Grèce ou France-Espagne, jusqu'à la mort du méchant. Et puis là, eh ben, quand le méchant est mort, eh ben, on replie les caméras, on tourne le bouton et on passe à autre chose. Et en vérité, bien sûr, c'est là que tout commence, c'est là que les reptiles sortent des trous de bombes et que les vautours tournent au-dessus des ruines. Après la Première Guerre mondiale en 1919, Louis Aragon écrivit un poème où il disait « Tout changeait de pôle et d'épaule. Tout changeait de pôle et d'épaule. » C'est ce qui se passe en Libye. Même si on connaît peu ou mal ce pays, ce qui est notre cas à Guy et moi, ce qui n'est pas du tout le cas de Patrick Mzadeh, qui a bien voulu nous accompagner, qui lui, au contraire, connaît bien ce pays et l'étudie, eh bien, c'est que tout change de pôle et d'épaule en ce moment dans ce pays. Il n'y a pas une seule personne vivant sur cette planète aujourd'hui qui peut dire « Où va ce pays ?» Où va ce pays à la veille des élections du 7 juillet prochain, entre les tribus, les islamistes, les milices opposées à l'armée, les héros et les faux héros, entre l'est du pays et l'ouest du pays, entre ceux du désert au sud et ceux de la côte, entre les noirs et les arabes, entre les arabes et les berbères, et les multinationales, qui bave devant le gâteau de la reconstruction. 200 milliards de dollars sur 10 ans. On vous le dira, après tout, cette guerre a coûté combien ? 400 millions d'euros, 400 millions d'euros pour 200 milliards. Pas mal, non ? Un bon investissement. Il y a ça aussi. Et beaucoup d'autres choses qui nous échappent. Ne comptez pas sur nous pour vous donner de tout cela des idées fortes et claires. Mais peut-être, peut-être, quelques aspects du chaos ambiant. Et puis aussi, probablement aussi, à travers les mots de nos amis et des moments que nous passerons ensemble cette semaine en Libye, un peu d'espoir dans tout ça. Libye, le chaos, l'espoir, c'est là-bas si j'y suis.
لأنه من علي هو سبب الثورة الليبية هذا من علي هو سبب الثورة الليبية وهذا مجردان يخرجوا لليبيا من أنتم؟ من أنتم؟ لا الله عليكم راح يخليكم في زنق زنق قتلكم جميعا 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 من أنتم؟ استمتعوا غنوا ورقصوا علم الزيكا طز في الغرب وطز في أمريكا وطز في أمريكا زنقة زنقة بيت بيت جردان نشبع فيكم ركن دمون يوم ولا الله عليكم ولا الله عليكم سركوزي زي مهبول ضرب العزيزية سروحوا العام اللي فات على البترول له الحبية سبب ثورة الليبية الزين وطرابلسية والقلبة المشامية والثوار داروا علي لا الله عليهم الثوار من أنتم الثوار تأخذون حبوب الهلوسة هذم جردان يأخذون حبوب الهلوسة لا الله عليهم
تحكي عن حبوب وتي أكبر هلواس في بنا بيك تشم ماركة قاعدة وماركة كاس وبعد كل قاعدة تخرج تعمل ديسكوراس حابة فقبو ثلاثة مرة جاية فوق موتور خطاباتي كقذافي يجيو مسرحية الناس ضحكوا عليك أكثر من مكيو زكية ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها Sans idée précise de ce que je vais y trouver, ni à plus forte raison y faire, ayant juste vu, comme tout le monde, des images de manifestants mitraillés par des avions, je passe, venant d'Égypte, croisant des flots de réfugiés et parmi eux de mercenaires, la frontière de cette terra incognita qu'est alors la Libye en feu.
Alors là, vous entendez un document rarissime. C'est un document exclusif de là-bas, si j'y suis. C'est le son dans ce grand cinéma absolument vide, le son du film de Bernard-Henri Lévy, Le serment de Tobrouk. On ne va pas dire à notre tour à quel point ce film est fait un bide total. Il n'est plus présent que dans trois salles en France. Donc, vous entendez un document extrêmement précieux parce que le film va être enlevé très prochainement, probablement, du circuit. On en parle parce que c'est un film soutenu par France Inter. Et ce qui est intéressant, c'est la phrase qui dit... images de manifestants fusillés par des avions. Alors on a commencé par cette phrase-là qui ouvre également le livre de Bernard-Henri Lévy, la guerre sans l'aimer, un livre qui marche pas non plus, le livre ne marche pas, le film ne marche pas, on va pas s'apesantir là-dessus, on va rester sur cette phrase. Les manifestants sous les tirs d'avions. Et on va tout de suite, puisque nous arrivons à Tripoli, nous rendre sur le point de départ, ce qui a servi de point de départ à la conviction de notre philosophe national, au président de la République de l'époque, qui s'appelait, vous vous en souvenez peut-être, Nicolas Sarkozy, et tout le déclenchement de l'offensive de l'OTAN et l'intervention des forces multinationales, l'Angleterre, la France, et puis l'OTAN qui est intervenue, comme vous savez. Tout ça par d'avions qui ont tiré sur la foule ce 21 janvier 2011 sur la place de Fachloum. Or, à peine arrivé, nous rencontrons des Libyens qui nous disent qu'il n'y a jamais eu d'avion pour tirer sur la foule. Il y a eu des manifestations, l'armée a tiré au sol dans la foule, mais il n'y a jamais eu ces fameux avions. Alors, nous voilà sur cette place. Bachir, là ça commence bien. Hein. On a un beau décor sur ce mur blanc, magnifique peinture, Free Libya. La Libye libre. Dis-nous ce que c'est les autres inscriptions en arabe.
Ça commence par Libya est dans notre cœur. Allah est le plus grand. Et là, il y a des insultes pour Kadhafi. Kadhafi, salopard. Là, c'est le nom du quartier qui est marqué Fashloum.
Fashloum.
Le 17 février avec Free Libya.
Voilà, 17 février, c'est le début de l'insurrection. Il faut dire qu'on est étonné, franchement, en arrivant à Tripoli, on arrive dans une ville normale. Dans une ville normale, dans une ville qui n'a pas l'air d'être une ville très pauvre, ni un pays très pauvre. La Libye est un pays qui est extrêmement riche, peut-être pas tous les habitants, mais en tous les cas, un pays riche avec des ressources énormes, comme vous savez, entre autres, évidemment, à commencer par le pétrole. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville ? Oui, bien sûr, nous voyons des ruines, et c'est les bâtiments liés au pouvoir de Kadhafi qui ont été bombardés par les forces aériennes de l'OTAN. Mais pour le reste, la ville est tout à fait tranquille. On va s'apercevoir que cette tranquillité apparente masque, dissimule plus ou moins joyeusement de très grands problèmes et de très grands défis et de très grandes inquiétudes sur le devenir de ce pays et de cette capitale. Mais on veut d'abord commencer par le commencement. On ne peut pas ne pas se dire que les choses auraient pu aller autrement. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît l'efficacité de l'intervention internationale, du talent extraordinaire de Nicolas Sarkozy et bien sûr de celui de Bernard-Henri Lévy. Tout le monde ou presque, même peut-être pas tout le monde, pas tout à fait tout le monde. On aurait peut-être pu faire autrement. On ose se poser cette question, on s'est posé cette question au moment où la décision a été prise, Nations Unies, OTAN, etc., vous vous souvenez. Mais on se la pose toujours aujourd'hui. Certains osent se poser cette question. Et d'abord une question sur la vérité. C'est important quand même la vérité. On sait bien que la vérité est la première victime de la guerre. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Là, on en a quand même une preuve, et une preuve de ce qu'il faut bien appeler un mensonge de la part de ceux qui n'étaient pas impliqués directement dans le conflit. Ici, dans ce quartier, le 21 février, vous organisez une grande manif. Une manif insurrectionnelle, une manif du peuple, sans armes. Et là, l'armée vous tire dessus. Il y a des morts.
Voilà, donc à Tripoli, on a commencé de faire les manifestations le 20 février.
Le 20 février, donc,
le jour avant. On n'était pas armés. Au début, on ne disait rien contre le régime, vraiment. C'était juste pour arrêter ce qui s'est passé à Benghazi. Donc, on a décidé de rassembler tous les jeunes des quartiers qu'on traverse jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelait autrefois la place verte. Et sur place, on était reçus par trois voitures des militaires de Kadhafi qui nous ont tirés dessus. Et il y avait tout de suite une cinquantaine ou soixantaine de morts, tellement c'était la panique que personne n'a su quoi faire, c'était la peur totale. Et les gens qui commençaient à tomber sur la route, nous, on n'avait pas le choix, on était obligés de s'enfuir. Et le 21, pareil, on était sur la rue, on essayait d'empêcher les militaires de faire des postes sur les routes, surtout dans le quartier de Tajoura. Et en arrivant à la maison, on était très surpris d'entendre que les avions de Kadhafi bombardent la ville de Tripoli.
Il n'y a eu aucune image, il n'y a eu que ce témoignage téléphonique, et c'est absolument tout. Et ça a été mis en boucle sur Al Jazeera, ça a été repris par toutes les agences de presse du monde, ça a été repris dans la presse, les avions sont en train de tirer sur la foule.
Oui, précisément, il disait « Au secours, aidez-nous, Kadhafi est en train de nous tuer, il nous bombarde avec les avions, il tire Pour nous, ça nous a fait peur au début parce qu'on était à la maison, on venait de rentrer de la rue et il n'y avait rien. C'est vrai qu'il y avait des gens qui tiraient sur nous, mais...
Pas les avions.
Malgré ça, on voulait savoir est-ce que c'est vrai ou pas. On est sorti, on est arrivé jusqu'au quartier de Fachloum, on est allé plus loin, Ben Achour, et même jusqu'à Janzour, qui est à l'ouest, il n'y avait rien de tout, vraiment. On est venu pour donner un coup de main, essayer de faire quelque chose, mais on n'a rien trouvé.
Comme si ce que tu racontes, avec la répression que tu racontes, n'était pas assez terrible. C'est-à-dire qu'Al Jazeera a choisi d'en remettre une couche, d'exagérer, en affirmant au monde tout entier que Kadhafi envoyait ses avions bombarder le peuple, balancer des bombes sur le peuple. Et c'est une information qui a été reprise par Al Jazeera, qui a été reprise par Bernard-Henri Lévy, qui a été reprise par le président Sarkozy, par le ministre de l'Intérieur français Alain Juppé, par toute la presse. Or, il n'y a jamais eu d'avions qui ont bombardé le peuple.
Oui, je confirme. Pour nous, comme je dis, comme révolutionnaires, ça nous a arrangé comme ça.
Tu veux dire que ce mensonge vous a arrangé ou pas ? Le mensonge des avions vous a arrangé ou pas ?
Si, ça nous a beaucoup arrangé. Vraiment, c'est grâce à ce mensonge, c'est ce qui a attiré le monde, tout le monde. Et ça a fait bouger vraiment l'Occident pour libérer ce peuple, quelque part.
Ah,
pour quelle raison ?
Est-ce que la manif pacifique qui est violemment réprimée, avec des morts, ce que tu décris, ce que tu as vécu, ce que tu as vu sous tes yeux, est-ce que décrire ça n'aurait pas suffi à attirer l'attention du monde ? Est-ce qu'il fallait en plus inventer, comme Al Jazeera l'a fait, inventer ce mensonge, ce média mensonge, ce mensonge des avions bombardant le peuple ?
Pour moi, comme Libyen et comme être humain, si on parle, ça devrait être largement suffisant de dire la vérité de ce qui s'est passé. On n'avait pas besoin d'exagérer. Mais le problème, quand je vois aujourd'hui, moi comme Libyen, ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe au Yémen, par exemple, personne n'intervient. Mais si on n'a pas exagéré en Libye, les gens ne seront pas là. Alors que quand
tu
on cache...
Que si on n'avait pas exagéré, la communauté internationale n'aurait pas réagi, la France n'aurait pas réagi, etc.
C'est qu'en Libye, quand on a parlé des avions, de ces grands massacres, que le temps est arrivé.
J'ai aussi parlé avec un habitant de Tripoli qui souhaite conserver l'anonymat, mais qui décrit la situation sur place.
Ils ont des avions de guerre et des jets
BBC.
On n'arrive même pas à voir.
21 février 2011.
Ils sont passés plus tôt ce matin. Maintenant, c'est calme. Il ne se passe rien à Tripoli. Mais à l'extérieur de Tripoli même, comme à Janziria et tous ces endroits où les manifestants étaient censés converger avant de venir vers Tripoli, il y a eu des attaques d'avions de chasse. Les gens tombaient, morts. Je suis désolé, je n'arrive même plus à parler.
C'était le témoignage d'un habitant de Tripoli qui me disait il y a quelques instants que des avions de guerre avaient bombardé des zones civiles de Tripoli. Nous n'avons pas encore d'estimation du nombre de victimes ni d'informations sur où se trouve le président Kadhafi.
Alors un vrai média mensonge, on est allé voir à Tripoli nos confrères d'Al Jazeera, la grande chaîne de télévision du Qatar et qui joue un rôle important dans cette histoire actuelle de la Libye, qui a joué un rôle très important dans la révolution libyenne. Et nos confrères, très courtoisement et très honnêtement, ont reconnu que l'objectivité avait ses limites, que la vérité avait des limites, qu'il y avait, parfois nous ont-ils dit, des facteurs humains qui prévalaient. Et voilà, donc c'est une façon de nous dire, oui, on a monté un bobard, la voix très émouvante que vous venez d'entendre, c'était une voix par téléphone, c'était pas quelqu'un qu'on voyait, donc ça pouvait être tout à fait un confrère qui faisait ça dans le fond du bureau pour accréditer l'idée que les avions de chasse tiraient sur la foule. Quand on se renseigne auprès de pilotes de chasse, évidemment, c'est quelque chose de techniquement impossible. En tout cas, c'est ce mensonge qui a servi de point de départ, qui a été l'image forte raconte, le storytelling qui a permis d'engager ces forces internationales dans ce conflit. Mais il y a, très intéressant, le bémol qu'apporte notre ami Béchir, qui est avec nous, et qui lui était présent, et qui dit oui, c'est un mensonge, mais voilà, c'est un mensonge pieux, c'était nécessaire pour que le monde s'intéresse à nous, c'est sa conviction. On est aussi, je l'ai dit, avec Patrick Mzadeh, qui est un diplomate, qui est un chercheur sur cette région de Libye où il a vécu pas mal d'années et qu'il observe très attentivement sur ce que pense-t-il de ce pieux mensonge.
Début mars à Bruxelles, c'est quelque chose qui a été martelé par le président français Nicolas Sarkozy, qu'en fait un président ou un dirigeant qui bombardait son peuple avec des avions de guerre n'était plus légitime. Et c'est ce qui a ouvert la voie, bien sûr, au train de mesures d'abord diplomatiques et puis ensuite à l'entrée en guerre de la France et de l'Angleterre le 20 mars.
Et ça doit continuer, selon toi et selon d'autres, d'être un sujet de polémique, un sujet essentiel de discussion sur l'ingérence humanitaire, militaire, sur peut-être ce qui a conduit dans ce conflit au bilan terrible de, on ne sait pas très bien, 50 000, 60 000 morts quand même, plus des centaines de milliers de blessés. Donc c'est un bilan catastrophique et certains veulent absolument continuer de penser qu'on aurait pu faire autrement et que cette ingérence reste un fait discutable. Même si aujourd'hui, effectivement, la Libye est libérée, qu'on peut lire sur ses murs « Free Libya » et que nos amis sont beaucoup plus détendus qu'ils n'étaient, là, évidemment, l'année dernière.
Voici les abords de la ville, tels que les a vus depuis son cockpit le premier pilote français à avoir pénétré dans l'espace aérien libyen.
Le serment de Tobrouk. Un film de Bernard-Henri Lévy.
Voici les lieux après cette première frappe française. La carcasse des obusiers, la réponse aux salopards qui commencent déjà de se demander si l'on n'aurait pas par hasard exagérément dramatisé.
Un acte aussi grave, aussi solennel, si l'on veut...
Là-bas, si j'y suis...
...que celui de déclarer la guerre, d'entrer en conflit armé...
Ronnie Broman... Avril 2011.
Avec un autre pays, a été pris apparemment sur deux coups de fil entre le président et notre fumiste national Bernard-Henri Lévy. Mais les guerres justes sont les guerres de défense. L'examen de l'histoire toute récente montre aussi à quel point la force est impuissante à faire vivre des idéaux. À quel point, finalement, ces idéaux disparaissent dans l'usage de la violence, sont engloutis par celle-ci. Donc, le problème commence lorsque ce sont des États qui interviennent loin de leurs frontières en sélectionnant les lieux et les causes pour lesquelles il leur semble judicieux d'aller envoyer leurs bombardiers.
Oui, bonjour là, monsieur. Je vous vois là devant la grande fresque murale qui dit Free Libya dans ce carrefour. Est-ce que vous étiez là le 21 février 2011 quand les avions de Kadhafi ont foncé vers la foule, comme le dit si bien Bernard-Henri Lévy, pour tirer dans la population ?
Ma fi 21, yom 21, ma fich tiyat khosfat fachlou.
Le 21 février, il n'y avait pas des avions qui ont bombardé Fachnou. Il y avait des militaires qui ont tiré sur les gens. C'est des milices, les milices de Kadhafi qui ont venu avec, pour tirer le feu sur les maisons. Mais heureusement, il n'y avait pas de blessés ni de morts ce jour-là. Il y a même la trace, on voit très bien sur le mur.
Ah oui, on voit les impacts de balles sur le mur blanc de l'immeuble qui est en face, juste au-dessus de la fresque.
Les traces des balles aussi sur le mur que vous voyez en face.
Donc il y a effectivement des tirs, mais les avions, parce que moi, mon ex-président, il nous a dit qu'il y avait des avions.
لان ما فيش اثر ما فيش اثر ان الطياره ضربت هنا المساكن اللي في فشلوم.
On n'arrive pas à trouver même des traces de bombardement de ces avions.
A ball of fire.
Une boule de feu.
The sound of gunfire.
Le bruit de tir.
CBS, 21 février 2011.
And an explosion.
Et une explosion. Le soulèvement qui a débuté dans l'est de la Libye s'est étendu jusqu'à Tripoli. Joints par téléphone, des résidents ont dit que des avions de guerre avaient tiré sur des manifestants. Deux autres chasseurs ont atterri à Malte, où les pilotes ont demandé l'asile pour avoir refusé d'obéir aux ordres de bombarder les civils. C'est la réponse désespérée du colonel Kadhafi à ceux qui tentent de renverser son régime.
Alors, on a contacté également des confrères qui étaient là à ce moment-là, des correspondants, des reporters, qui nous ont dit on savait qu'il n'y avait pas eu de bombardement aérien, de tir aérien sur la foule, mais voilà, on n'a pas pris position, on n'a pas fait. De suite, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, une neutralité, une neutralisation, et une explication sur la façon dont se fabrique l'événement, dont se fabrique le consentement, dont se fabrique aussi une intervention aussi importante que celle qui a eu lieu dans ce conflit, dont les conséquences ne seront pas évacuées, nulles, bien sûr. C'est une chose que deux parties de la population s'affrontent, c'en est une autre lorsqu'une partie de la population est soutenue par une force étrangère extrêmement puissante qui vient à son secours. On l'a entendu du côté des loyalistes à Kadhafi qui nous disent « Oui, ils ont gagné, mais ce n'est pas leur seule fête, c'est parce que l'OTAN est venue à leur secours. Sans l'OTAN, ils n'auraient pas vaincu. » Donc on voit que cette intervention pèsera longtemps dans la suite de l'histoire, la réconciliation possible ou impossible, rendue impossible. Qui sait ce qui se passe dans ce pays? Est-ce que ce pays va devenir... C'est pour ça que nous essayons de comprendre.
Et est-ce que vous connaissez Bernard-Henri Lévy, un autre Français?
Bernard-Henri
Lévy.
Henri Lévy.
C'est un philosophe français.
Non, pas problème. Je
ne connais pas, non.
Et vous, vous avez entendu parler de Bernard-Henri Lévy? C'est le Français qui a décidé Sarkozy à intervenir. C'est grâce à lui que vous êtes libre aujourd'hui.
هو الفضل هو اللي رفع الحقائق نتاع بنغازي للامم المتحده والعالم اوروبا برا هو اللي طلع الحقائق
c'est lui qui a montré tous les crimes de Kadhafi à l'ONU et à l'Occident et qui a poussé les gens de venir
هو اصلا توا كلمهم قال لهم بشار بالحق اقرا درس القذافي انا سمعت عليه المره اللي فاتت
il a même entendu que maintenant il a menacé Bachar al-Assad en disant que il doit réviser bien les leçons que Kadhafi a reçues.
Il a même fait un film qui est passé au Festival de Cannes sur ce qui s'est passé ici.
Voilà,
il a suivi ces informations.
Ah ouais, vous vous tenez au courant alors, c'est bien. Parce que BHL, dans son film, il explique comment c'est grâce à lui et à Sarkozy que vous avez été sauvés.
Sarkozy est très bon.
Sarkozy est très bon avec les Libyens. Il est très bon avec Sarkozy. Et les Libyens sont tous les deux. Voilà.
Sarkozy a beaucoup donné pour la révolution libyenne. Et tous les Libyens sont reconnaissants.
Voilà,
c'est un personnage très populaire en Libye aujourd'hui.
Mais vous savez qu'en France, il n'a pas été réélu, les Français ils l'ont chassé.
Il trouve ça bizarre. Pourquoi? Ça ne marchait pas avec vous, les Français? Il n'était pas honnête?
Il dit que Mohamed Gaddafi a aidé Sarkozy.
On a entendu aussi que Kadhafi a financé les élections de Sarkozy en 2007.
Ah mais vous êtes au courant de plein de choses alors, mine de rien, là, tranquillement installé, c'est un peu à l'ombre là sur la terrasse.
Voilà, on essaie de suivre la politique.
Mais Mais l'essentiel, hélas, reste à faire. Car Kadhafi, loin d'entendre l'avertissement que lui a lancé Sarkozy, aussitôt rejoint d'ailleurs par le Premier ministre britannique David Cameron, redouble de violence et fait à nouveau donner ses avions contre les villes insurgées.
Donc je savais que c'était un homme prêt à tout.
Nicolas Sarkozy.
Et les informations que nous avions, c'est que la répression à Tripoli était sauvage. Connaissant les rapports entre les Tripolitains et Benghazi, on s'était dit ça va être le massacre. Et d'ailleurs, il n'avait pas traîné, puisqu'avec le sens de la nuance qui était celui de M. Kadhafi, il avait décidé d'envoyer l'aviation. Envoyer l'armée pour réprimer les manifestants, c'est déjà lourd, mais envoyer l'aviation. Est-ce que ça s'est souvent vu dans l'histoire ?
ولا نحكي عاللي بالرخيص باعوك يا بلادي وش روح يا تلخزي والعار مع معمر الغدار يلي حكم البلاد بالحديد والنار
يا ليبيا ليبيا يا بلادي بلادي بلادي
ليبيا تعاني ليبيا تموت ليبيا تعاني ليبيا تموت ليبيا تردف يا الله يا الله
Là, là, on est à Tripoli, on est dans les ruines du QG de Kadhafi. C'est complètement ruiné ce qu'on voit derrière nous, tout est à plat, tout a été bombardé, il y a des tas d'ordures partout. C'est de là qu'on a vu Kadhafi s'adresser au monde, c'est d'ici qu'il parlait.
Oui, le fameux discours de Zanga Zanga d'Ardar oui. Était fait dans une place un peu plus loin, donc vers l'arrière de ces arbres que vous voyez oui, là-bas oui, au fond. Oui.
Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on voit que c'est vraiment des grands édifices qui sont raplatis comme un château de cartes, quoi.
Avant, on n'espérait même pas s'arrêter devant au rempart à l'entrée.
On ne pouvait pas.
Et vous risquez votre vie si vous vous arrêtez brusquement ici.
Mais quand est-ce que l'OTAN a bombardé ?
Ça a duré du mois de mai jusqu'au mois d'août. Ces bombardements avaient lieu chaque 2-3 jours, nuit. Il y avait des bombardements assez importants.
Ici, sur le QG, là.
Ouais. Ils bombardaient surtout tout ce qui est bunker, installation militaire.
Ça ne s'est pas fait une seule fois.
Non, ça a duré.
D'où il était, Kadhafi voyait autour de lui, peu à peu, son QG s'effondrer. Cette nuit, ils ont bombardé telle partie. Cette nuit, ils ont bombardé telle partie. Oui, c'est quand même psychologiquement, ça doit être assez difficile.
Je suppose. Oui.
Baba al-Aziziya, c'est le nom du QG de Kadhafi, au cœur même de cette ville, une forteresse, une cité longtemps interdite, le lieu du pouvoir et de la peur, évidemment, pour les habitants de la ville. Et depuis la chute du dictateur, la chute du guide, eh bien, c'est devenu, et après surtout les bombardements de l'OTAN, c'est devenu un lieu de promenade. Le vendredi, qui est le dimanche, en Libye, on va regarder, on va se balader là-dedans, et on balance ses ordures. Voilà, c'est devenu un immense dépôt d'ordures. On emporte ses ordures avec soi, on les jette, soit si on vient à pied, si on passe en voiture, on jette les ordures sur les ruines du QG.
Salam alaikum.
Salam alaikum.
Marhaba.
Qu'est-ce que ça vous dit tout ce paysage là, de ruines ?
Ma yqdar fahad difout mahda jamba. Qadra tkhouch lkhashaya bokol dashba hatta min nahiyat ssour.
En ce qui concerne l'endroit, donc c'était un endroit un peu énigme pour nous avant. à côté duquel tu ne pouvais même pas passer. Et comme vous pouvez voir, donc, c'était tout encerclé par un mur d'enceinte. Tout le monde dit que Kadhafi, c'était une page noire dans le livre d'histoire de la Libye.
Une page noire qui a duré 42 ans quand même. Est-ce que vous connaissez Bernard-Henri Lévy ?
Oui, j'ai entendu parler de Henri Lévy. Et c'est une personne qui a été à plusieurs endroits là où il a semé un peu la zizanie. Et quand il est venu ici, donc beaucoup de rumeurs qui étaient dites autour de lui, qu'il était sioniste et juif et tout ce que on a utilisé contre lui donc dans les médias.
Ça, c'est des rumeurs que Kadhafi a fait circuler pour discréditer l'intervention française. Et vous croyez qu'il a fait du bien à la Libye ou non ?
Il faut savoir qu'il n'y avait pas du bénévolat dans l'action internationale. Donc il y avait des intérêts. Pour Kadhafi, donc, puisque la France tenait beaucoup d'investissements en Afrique, il y avait une certaine rivalité. Alors là, donc, c'est pour ça que les Français étaient contre Kadhafi. Donc ça explique un peu la prise de parti de la France contre cette personne.
C'est-à-dire que d'après vous, si les Français se sont engagés les premiers pour libérer la Libye, c'était pas pour les Libyens, c'était par intérêt économique, c'était pour votre pétrole et votre gaz.
Moi, j'ai un peu côtoyé un peu tout le monde et je connais un peu les mentalités et je suis sûr que les Français ne font pas ça pour seulement une cause humanitaire.
Un champ de ruines. On passe des portiques, des couloirs, on voit des meurtrières sur les coins et partout des graffitis des différentes katibas.
Alors voilà, là on est dans le bunker de Kadhafi tel qu'il est aujourd'hui, 10 mois après la chute. Et alors c'est la promenade du dimanche, c'est-à-dire du vendredi. On voit là en contrebas, c'est le départ d'un souterrain avec une double porte blindée type porte de coffre-fort. Et c'est donc par là qu'il avait prévu de se barrer, lui et ses hommes.
Oui, c'est par là qu'il s'est enfui.
C'est par là qu'il s'est enfui. Il a suivi ce souterrain jusqu'où ?
On suppose qu'il est sorti dans ce qu'on appelle le zoo de Tripoli. Il y a un terrain vague à l'intérieur du zoo. C'est là où il sortait.
Et là, il y avait cette corde de voiture qui l'attendait.
Oui, pour sortir de Tripoli, il y avait tout un convoi, bien sûr. Voilà. Donc,
il y avait un convoi de bagnole qui l'attendait.
Voilà, ils sont passés à travers la région d'Abou Slim, la région la plus fidèle de Tripoli. Sortir sur l'axe nord-sud donc, de Tripoli, qu'on appelle Salah ad-Din, qui emmène jusqu'à la région de Tarhouna. Et de Tarhouna, là, il prenait aussi une bretelle pour l'emmener jusqu'à Sirte, en passant par Bani Walid. Il a passé presque 3 semaines à Sirte avant d'être capturé le 20 octobre. Et là, donc, à la sortie de Sirte, dans le quartier numéro 2, il était bombardé par l'OTAN. Il a quitté la voiture qui était frappée par un missile, trouvé refuge dans une maison qui était pas loin de la route, Et à certains moments, ils entendaient donc des coups de feu. Ils se sont réfugiés dans les canalisations. Oui. C'était pour l'évacuation d'eau de pluie hein, sous la route. Donc, il s'est réfugié dans ces tuyaux. Et c'était l'endroit là où on l'a trouvé le 20 octobre.
Là, il est très fier de montrer la barbe du jeune homme là-bas.
Cette personne a défendu Kadhafi jusqu'au bout. Il était présent au moment de l'arrestation de Kadhafi.
Ah oui ? Tu étais avec Kadhafi quand il a été arrêté ?
Il a dit oui, dans le tuyau, il rajoute.
C'est vrai ?
Comme toi, tu es à côté de moi non, maintenant.
Qu'est-ce que tu faisais là ? Comment tu t'y es trouvé là ?
Je combattais avec lui jusqu'au bout.
Quel âge tu as ?
J'ai 25 ans. On était ensemble dans le tunnel.
Qu'est-ce qu'il disait ?
Il n'avait pas peur, il nous disait allez combattre, essayez de réquisitionner leur voiture, n'ayez pas peur.
Il était courageux ?
Oui, il était courageux. Un des gardes qui était avec nous, donc il a découpillé une grenade pour la lancer sur un pick-up qui transportait un antiaérien. La grenade est revenue sur nous et tombée entre nous. Quoi. Il restait 5 secondes avant l'explosion. Celui qui a lancé la grenade donc a récupéré la grenade pour la lancer et s'est fait arracher la main. Donc il y avait un éclat qui a touché Mansour Daou, le garde personnel de Kadhafi. Et aussi un autre éclat qui a touché Abou Bakr Younes, le chef d'état-major, et il est mort sur le coup. Dans tout ça, les révolutionnaires s'approchaient et ils nous ont dit « Vous pouvez vous rendre, on ne vous touchera pas ». Un des gardes a demandé à Kadhafi « Monsieur, est-ce qu'on se rend ?» Il lui a dit non, il ne faut pas se rendre.
Il faut se battre.
Il faut résister. Le guide avait un éclat de la grenade donc à son cou, il est saigné.
Le guide, c'est-à-dire Kadhafi a commencé à pisser le sang.
Ça va, donc ils ont commencé qu'il allait s'évanouir. Alors là, donc, un des fils de Boubacar Jabr, le chef d'état-major, s'est redressé en disant « Kadhafi est là, il a besoin d'ambulance, il est touché ». Et alors là, donc, tout le monde s'est précipité vers le tunnel, vers Kadhafi. Et alors là, ils ont commencé à le frapper et lui, il leur disait « Qu'est-ce que je vous ai fait, mes enfants, qu'est-ce que je vous ai fait ?»
Est-ce que tu as assisté à son lynchage ? Est-ce que tu as assisté au moment où tous les révolutionnaires autour de lui le tapaient, le tabassaient et l'ont complètement lynché ?
J'étais figé, j'ai rien pu faire. On n'a pas pensé que ça arriverait le jour de le voir comme ça. On n'a pas cru que Kadhafi va mourir et que la guerre va finir. Parce que lui, il disait souvent, vous allez être victorieux. Thank you.
La Libye, l'espoir et le chaos. C'est le premier volet de notre série sur la Libye avec Guy Van Cotil et Patrick Mzadeh. Merci à Ali, Omar et Moubarak. Traduction Bachir Al-Ghadi et Karim Labata. Montage Antoine Chao et Grégory Salomonovitch. Demain, donc, la suite. Je rappelle le titre du bouquin de Patrick Mzadeh, paru en 2011 aux éditions Lattès, « Au cœur de la Libye de Kadhafi ». Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique « Émission là-bas si j'y suis », où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org. Et puis, on peut se retrouver également sur la page Facebook de « Là-bas si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Pierre Monsigny et Pauline Laverdure, Bertrand Chometon et Franck Allerer ont réalisé cette émission assistée de Marina Douillez. Grégory Salomonovitch, quant à lui, attend vos messages, comme chaque jour, au répondeur de la base J'y suis, dont le numéro est 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du festival Jazz in Cheverny, du 28 juin au 1er juillet. Au programme de cette 5e édition, sur la scène du château de Cheverny, Anne Passeo et Renaud Garcia-Fonce. Groove Catchers et Robin McKell. Le duo Malher Blurrer et le big band Electro Deluxe. Retrouvez le festival Jazz in Cheverny dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
Demain, la suite donc de ce voyage en Libye à 15h. Il est 16h sur Inter. Présentement, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
De Wall Street à Madrid, Milan, en passant par Athènes, les places boursières sont dans le rouge cet après-midi. Les investisseurs doutent quant aux capacités des Européens à apporter des solutions à la crise de la dette lors du sommet européen de jeudi et vendredi. Sommet donc qui doit tenter de trouver des solutions à la crise. Ajouté à cela, l'Espagne qui a officiellement demandé aujourd'hui l'aide financière des 27 pour sauver ses banques. On connaîtra le détail du plan espagnol le 9 juillet prochain lors de la prochaine réunion de l'Eurogroupe. Fini la politique du chiffre en matière de sécurité. Manuel Valls avait esquissé l'idée à son arrivée place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur confirme aujourd'hui, lors du baptême de la 62e promotion des commissaires de l'École nationale supérieure de la police à Saint-Cyr au Mont-d'Or, près de Lyon. Manuel Valls a donc jugé que la politique du chiffre a pesé lourdement dans le travail des policiers, comme une contrainte, dit-il, qui a nuit à l'efficacité. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur a également appelé les policiers à bannir les contrôles d'identité abusivement répétés ou réalisés sans discernement. Il risque, dit-il, d'alimenter le ressentiment d'une partie de la population. On apprend aujourd'hui, un homme a dénoncé à la police son fils de 27 ans. Il a découvert chez lui 250 kilos de cannabis dans son studio, donc à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. Le père soupçonne son fils d'être une nourrice, à savoir une personne qui cache la drogue chez elle en contrepartie d'une rémunération. À l'étranger, sitôt officiellement élu, l'islamiste Mohamed Morsi s'est mis au travail aujourd'hui. Le nouveau président égyptien s'est attelé à la formation d'un gouvernement civil. Ce matin, la presse égyptienne a salué la victoire de Mohamed Morsi, même si de nombreux Égyptiens redoutent aujourd'hui de voir un conservateur arriver au pouvoir et donc les priver de leur liberté. Au moins 13 personnes, en majorité des civils, ont été tuées aujourd'hui dans des bombardements à Homs et Idlib en Syrie. La Syrie, qui fait depuis ce matin l'objet de nouvelles sanctions de la part de l'Union européenne, ce sont les 16e décidées depuis un an. Oui au maintien de l'Écosse au sein du Royaume-Uni. Les principaux partis politiques britanniques ont lancé aujourd'hui leur campagne à Édimbourg. Une réponse en fait à celle lancée il y a un mois par les partisans du oui au référendum sur l'indépendance de l'Écosse prévue en 2014. Retour en France, Éric Raoult est sorti de l'hôpital et il va bien. Selon une source proche du maire du Raincy en Seine-Saint-Denis, il n'a fait ni AVC ni crise cardiaque. Samedi après-midi, en effet, Éric Raoult a fait un malaise dans sa mairie. C'est un Français qui arbitrera la demi-finale de l'Euro 2012 entre l'Allemagne et l'Italie. Ce sera jeudi à Varsovie, en Pologne. Une véritable récompense pour l'arbitrage tricolore. Stéphane Lannois, 42 ans, bénéficie en fait aussi au passage de l'élimination des Bleus en quart de finale samedi. Mais il est aussi récompensé pour ses prestations jugées irréprochables lors de ses deux matchs du premier tour. Enfin, les résultats du premier tour de Wimbledon. Ça passe chez les hommes pour Djokovic, Gasquet, Beneteau, Yuzny et Verdasco. En revanche, chez les dames, Pauline Parmentier, la française, a été éliminée cet après-midi par la roumaine Sirstea en 2-7, 6-4, 6-1. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Mercredi sur France Inter,
Work for what you think is right.
Matinale spéciale, Patrick Cohen.
Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, elle se bat depuis 20 ans pour la démocratie en Birmanie. Aung San Suu Kyi sera l'invitée exceptionnelle du 7-9.
Une matinale à suivre sur France Inter mercredi à partir de 7h.
France Inter,
la différence.
Et c'est à vous Frédéric Lodéon.
Bonjour. Merci, bonjour Laetitia.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes nouvelles. La présence de la magnifique cantatrice mezzo-soprano Joyce DiDonato. Bonjour Joyce.
Bonjour Frédéric.
Et puis, de bien tristes nouvelles, la disparition de notre chère pianiste Brigitte Engerer, dont j'évoquerai la mémoire en deuxième partie d'émission. Et de plus, Jacques Tadéhi, pianiste, organiste et ancien directeur de la musique à Radio France, nous a quittés aussi. Enfin, place à la vie, puisque Brigitte Engerer disait toujours qu'il fallait que la vie continue. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir parce que vous chantez demain au Théâtre des Champs-Élysées, un beau récital en hommage à Venise.
Oui.
Et bah, vous m'avez dit, j'ai un peu oublié mon français, mais ça n'est pas vrai parce que vous êtes souvent chez nous. Ça fait un an maintenant que vous êtes venu.
Oh, merci.
Et c'est un superbe français, on entend très bien. Hein, quand même.
Merci.
Et nous allons entendre tout de suite un disque qu'on aime beaucoup à France Inter, qu'on a pas mal diffusé, c'est Divo Diva, Divo Diva Divo, c'est-à-dire vous avez cette ambiguïté, il y a l'homme et la femme qui chantent, et d'où est venue l'idée de ce disque-là, ce mélange des genres, le fait que vous chantez quelquefois un rôle d'homme, quelquefois de jeune homme, d'adolescent, et puis quelquefois de jeune femme aussi. Voilà.
Oui, c'est un petit regard dans le monde de mezzo-soprano.
Oui.
C'est un jambe dans comme une femme et une jambe, oui, comme un garçon.
Oui, parce qu'autrefois, à l'opéra, évidemment, souvent des femmes chantaient des rôles de jeunes hommes en général. Hein,
oui.
Et on a depuis très très longtemps cette convention, on peut dire ça. Et vous êtes parfaitement à l'aise là-dedans. On va entendre tout de suite le fameux air de Chérubin. Mais Chérubin, c'est un petit, il a 17 ans, 16 ans, même pas. Hein.
Oui, 14 peut-être.
Peut-être 14 même, oui. Oui, vous le voyez comme ça, si jeune. Hein, oui.
Oui.
Et puis il est entouré de femmes, toutes les femmes l'adorent.
Oui.
Parce qu'il est très beau, puis il n'est peut-être pas très dangereux pour l'instant.
Non, et parce que lui est plein des hormones.
Oui, c'est ça, voilà.
Absolument. Lui n'est pas un athlète comme il compte, parce que lui ne pas comprend beaucoup.
Il sent tout ce qui change, oui, en lui, dans son corps magnifique et pour l'instant assez frêle. Voi che sapete, donc tiré des Noces de Figaro de Mozart, vous qui savez ce qu'est l'amour, il dit à ses femmes autour de lui.
Thank you.
Je ne trouve la paix ni le jour ni la nuit, pourtant il me plaît de languir ainsi.